Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, la presse. Au programme, les écrans pourraient nuire à la gestion des émotions des enfants, identifier les émotions par la musique, télétravail rime avec satisfaction et le privilège d'entendre Vanessa. Bonne écoute.
Les écrans pourraient nuire à la gestion des émotions des enfants. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 février 2023 dans La Presse. Les parents qui donnent leur téléphone à leur enfant pour le calmer quand il est impatient pourraient s'en mordre les doigts. Cette stratégie pourrait se retourner contre eux et même nuire à long terme à leurs petits. C'est du moins la conclusion que tire Caroline Fitzpatrick, chercheuse en éducation de l'Université de Sherbrooke, de l'observation de 315 néo-écossais de 3 et 4 ans. Chaque heure passée devant un écran à 3 ans et demi augmente les manifestations de colère un an plus tard, dit Mme Fitzpatrick. L'étude a été faite durant la pandémie, même si elle a été planifiée avant. J'ai été surprise de voir combien de temps les enfants passaient devant un écran. 3 heures et demie par jour, dit la spécialiste. Les recommandations sont d'une heure à cet âge, et on parle de familles favorisées. La moitié des familles participantes gagnaient plus de 100 000 $ et 80% étaient mariées. L'âge moyen des parents était de 35 ans. En quoi les écrans sont-ils néfastes? Les enfants doivent développer des manières de gérer eux-mêmes leurs émotions. Si on leur donne des jeux, de quoi dessiner, c'est créatif, ça les aide à développer cette capacité. Et le temps d'écran, à la base, peut remplacer des activités plus créatrices, notamment celles qui ont recours à l'imagination, dit Caroline Fitzpatrick, chercheuse en éducation de l'Université de Sherbrooke. Est-ce qu'il y avait des différences entre les pères et les mères, les garçons et les filles? Non, pas du tout. C'est un peu surprenant, dit Mme Fitzpatrick. Et entre les parents plus impliqués dans le soin des enfants et ceux qui travaillent plus? De manière anecdotique, on entend que les pères sont plus susceptibles de fournir un écran à leurs enfants pour les occuper, alors que les mères ont des règles plus établies pour limiter le temps d'écran, mais nous ne pouvions pas vérifier cela avec notre échantillon. D'autres études ont montré que plus un enfant est colérique, plus il a accès à des écrans. Nous voulions voir si le lien contraire était aussi vrai, dit Mme Fitzpatrick. En fait, nous n'avons pas vu de lien entre la propension aux crises chez les enfants au début du suivi et son temps d'écran. Alors, il semble que ce soit l'écran qui mène aux colères. Quel que soit le niveau de colère au départ, l'exposition aux écrans menait à une augmentation similaire de la fréquence des crises. Est-ce que la pandémie peut avoir faussé les données? Nous avons fait le plus de vérifications possibles pour éliminer l'influence de l'anxiété pandémique sur les parents et la vie de famille, dit la chercheuse de Sherbrooke, dont l'étude a été publiée le 16 février 2023 dans la revue Pediatric Research. C'était « Les écrans pourraient nuire à la gestion des émotions des enfants », un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 février 2023 dans La Presse.
Identifier les émotions par la musique, un texte de Jean Siag, paru le 12 février 2023 dans La Presse. Une étude récente menée par des doctorants de l'UQAM mesure pour la première fois des états émotionnels grâce à la musique, au même titre que les mots. Une avancée qui pourrait aider les personnes qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, dont les personnes autistes. L'auteur principal de l'étude, Eric Hannigan, avoue avoir même été étonné d'apprendre qu'aucune mesure des émotions ne se servait de la musique à ce jour. On sait qu'il y a une connexion entre la musique et les émotions et que ces connexions n'ont pas de barrière culturelle. Plusieurs études l'ont démontré par le passé, nous dit-il. Le simple fait d'écouter de la musique va induire des émotions, parfois plus facilement qu'avec les mots. Pour mener à bien l'étude, l'équipe d'Éric Hannigan, qui comprend Ariel Bonneville-Roussy et Christophe Fortin, a réuni 280 participants qui ont validé leur état émotionnel en écoutant 32 extraits audio d'une quinzaine de secondes. 4 émotions ont été traduites musicalement, la joie, la tristesse, la peur et la sérénité. De la musique de laboratoire. Fait important à noter, ces extraits de musique instrumentale, interprétés au piano, ne provenaient pas de compositeurs connus pour ne pas influencer les participants ou induire des émotions différentes d'une personne à l'autre, mais ont été créés dans un laboratoire de neurosciences, laboratoire Isabelle Peretz, et font partie du domaine public. On a comparé les résultats de la mesure des émotions par la musique avec un autre questionnaire qui utilise des mots, explique Éric Hannigan. Par exemple, un individu qui a choisi les extraits de musique joyeuse pour décrire l'état dans lequel il se trouvait avait tendance à faire une sélection d'adjectifs positifs dans le second questionnaire. C'était notre façon de valider la corrélation entre la musique et les mots. Selon Éric Hannigan, ces résultats pourraient être utiles auprès des personnes qui ont de la difficulté à identifier leurs émotions. En leur présentant des extraits musicaux, on est en mesure de savoir comment ces personnes se sentent. Ça peut être une façon de les aider à mieux les exprimer. On pense entre autres aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, dit Éric Hannigan, auteur principal de l'étude. Bonifier le vocabulaire musical. Évidemment, le vocabulaire émotionnel exploré dans cette étude, véhiculé par la musique, est limité à 4 émotions de base. Est-il envisageable de complexifier ce vocabulaire? « Je pense que ce serait possible », répond Éric Hannigan. Pour cela, il faudrait créer d'autres extraits qui couvrent un spectre plus large d'émotions. Mais il fallait d'abord valider que ça fonctionnait avec 4 émotions de base. Et la réponse est oui. Donc, ça ouvre un nouvel espace de recherche pour nous. La prochaine étape pour Éric Hannigan est de créer des seuils cliniques avec son questionnaire pour évaluer les différents états dépressifs. Si une personne choisit beaucoup d'extraits musicaux qui sont tristes, est-ce qu'elle présente plus de risques d'avoir des symptômes de dépression? C'est sur cette question que je travaille. C'était « Identifier les émotions par la musique », un texte de Jean Siag, paru le 12 février 2023 dans la presse. Télétravail rime avec satisfaction, un texte de Isabelle Dubé, paru le 16 février 2023 dans la presse. Contrairement à ce qu'on croyait avant la pandémie et l'accroissement du télétravail, les employés qui travaillent à distance se sentent plus engagés envers leur entreprise que ceux qui sont tous les jours au bureau. Ce sont les premiers constats d'une vaste enquête du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, Cyrano. Le Cyrano a entrepris au printemps 2022 une longue étude sur les diverses facettes du travail. Pour une période de 2 ans, le Cyrano suit la performance et la satisfaction au travail de 10 000 employés d'entreprises et organisations situées au Québec. Les chercheurs ont présenté leurs premiers résultats mercredi lors d'un webinaire. Depuis que les employés ont pris goût au télétravail, les entreprises et les spécialistes des ressources humaines à travers le monde brandissent le spectre de la diminution du niveau d'engagement des employés pour refuser le travail à distance. Cette inquiétude n'est pas confirmée par l'étude du Cyrano. Bien au contraire. Les employés qui travaillent à distance ont un niveau d'engagement plus élevé envers leur travail, un engagement moral plus élevé envers leur employeur et éprouvent un sentiment d'appartenance plus fort envers leur organisation que ceux qui sont toujours au bureau. Notre projet de recherche se distingue, explique Sylvie Saint-Onge, professeur titulaire à HEC Montréal. On prend en compte le fait qu'il y a une diversité de modes de travail hybrides au sein des organisations. Les chercheurs ont interrogé des employés qui sont tous les jours au bureau, qui travaillent une journée à distance, deux journées à distance, trois ou quatre journées à distance et 100% en télétravail. L'étude confirme que la quasi-totalité des télétravailleurs, plus de 90%, estiment travailler autant ou plus d'heures par jour. Jusqu'à présent, la majorité des répondants se disent satisfaits de leur travail, mais ceux qui travaillent à distance ou en mode hybride le sont encore plus. Les employés qui ont la possibilité de faire du télétravail, tout modèle confondu, ont aussi un meilleur sentiment d'efficacité et s'estiment plus productifs dans le confort de leur foyer. Une perspective personnelle. Ceux qui travaillent trois jours et plus à distance estiment qu'ils sont plus productifs par rapport à la moyenne globale. Vous allez voir un peu cette tendance autour de trois jours et plus, a fait remarquer Ali Béjaoui, professeur agrégé à l'Université du Québec en Outaouais, lors de la présentation des résultats, qualifié de « portrait des employés à l'été 2022 », lequel pourrait évoluer au fil des deux prochains questionnaires. Notre questionnaire prend une perception individuelle, précise Sylvie Saint-Onge. C'est la perception des employés. Les cadres qui ont répondu pour eux. On n'a pas la perspective organisationnelle et on ne prétend pas avoir une perspective sociétale. Cependant, comme le but de l'étude est d'apporter des données probantes pour aider les employeurs dans leur prise de décision en matière d'organisation du travail, la chercheuse rappelle que c'est avec leur perception que les employés se comportent et décident de quitter une entreprise ou de s'y joindre. Une majorité d'employés reconnaissent le droit de gestion de l'employeur, puisque 68% des répondants sont d'accord ou tout à fait d'accord pour que ce soit lui qui fixe le nombre de jours de travail à distance. La moitié des répondants, 55%, estiment qu'ils ont de la flexibilité dans le choix des heures de travail à distance. Pour ce qui est du soutien de l'organisation, des collègues, et du supérieur immédiat, il est estimé plus faible parmi les employés qui sont toujours sur les lieux de travail. Le prochain questionnaire sera distribué aux participants en mars 2023. C'était « Télétravail rime avec satisfaction », un texte de Isabelle Dubé, paru le 16 février 2023 dans la presse.
Le privilège d'entendre Vanessa, un texte de Chantal Guy, paru le 29 janvier 2023 dans la presse. À seulement 32 ans,
Vanessa destinée à une connaissance approfondie des médias québécois parce qu'elle les connaît de l'intérieur. Elle est pratiquement passée par tous les réseaux et les empires. Québécois, Radio-Canada, Télé-Québec, Nouveau, RTV, Rouge FM, Cube Radio, etc. Et par toutes les plateformes, télé, radio, web, en collaborant à des émissions comme « Décoloniser l'histoire », dans les médias, « Retour vers la culture », on va se le dire, la journée est encore jeune, de l'huile sur le feu. Bref, comme pour bien des millénarios, son CV est étourdissant et peu attaché à une maison en particulier. Son plus récent projet? Les clés du logis, une série documentaire très instructive sur la crise du logement au Québec diffusée au Canal Savoir. Et qui conjugue ce qu'elle aime dans son travail, soit le journalisme de solution, la justice sociale et la vulgarisation. Mais elle aime beaucoup aussi le côté givré de l'infodivertissement, le mélange de culture populaire et d'analyse sérieuse, admirative de ce qui se fait sur le web, qu'elle trouve plus libre que la télé. Quand elle a commencé dans la salle de nouvelles web de Radio-Canada, les Now 10, Vox, AJ+, ou BuzzFeed se développaient et l'ont beaucoup marqué parce qu'ils rejoignaient les gens de son âge. Mais quand a-t-elle eu la piqûre du métier? « Jamais, et je ne l'ai toujours pas », répond-elle, ce qui me fait éclater de rire. C'est cette franchise que j'aime chez cette fille qui n'a pas la langue dans sa poche et qui ne se gêne pas pour critiquer les faiblesses d'une profession particulièrement mal aimée dans les sondages. C'est un corps de métier que le monde n'aime pas et il va falloir à un moment donné l'accepter et revoir notre position d'humilité, dit-elle. Il n'y a rien qui me fascine plus que des gens le cul bordé de nouilles qui sont incapables d'autocritique, et je trouve que notre milieu en est rempli. À quel point tu peux être arrogant quand tu sais que les trois quarts de la population ne t'aiment pas? Dit Vanessa Destiné. Je l'avoue, je suis une fan même s'il m'arrive de dire « aïe aïe » en lisant ses statuts sur les réseaux sociaux. Elle est de la génération de la crise étudiante de 2012 qui n'oubliera jamais, je crois, le traitement que les médias traditionnels lui ont fait subir. On lui a souvent dit de faire attention à ce qu'elle disait pour ne pas nuire à sa carrière, mais elle n'a peur de rien, car de toute façon, être journaliste n'était pas le rêve de sa vie. Plus un accident de parcours, selon elle. Vanessa Destiné se voyait travailler en coopération internationale, gravir les échelons et, pourquoi pas, devenir diplomate. Je suis très consciente des différents enjeux, des capacités et des limites d'à peu près toutes les salles de nouvelles du Québec, à l'exception des médias anglophones que je connais vraiment moins. Ce qui dicte beaucoup le traitement de la nouvelle au Québec, c'est vraiment la culture d'entreprise. C'est ça qui va avoir une incidence sur nos intérêts et nos angles morts. Elle déplore la paresse et la mauvaise foi sur certains sujets. C'est ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir tout le temps raison et d'avoir tout compris. La job des journalistes est littéralement de fouiller des sujets pour que monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas le temps de lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir comprennent mieux. Il faudrait peut-être retourner derrière la table et lire davantage avant de s'exprimer. C'est pour ça que je suis dur envers notre milieu qui n'a pas tant de critiques que ça, pour le pouvoir qu'on a dans la société. Alors que j'arrive avec un statut Facebook qui décoiffe, excuse-moi, mais je suis un caillou face à Goliath. Si tu chiales à longueur de journée sur le reste de la société, tu es capable d'en prendre. Elle rappelle que c'est tout récent, le fait que l'on s'intéresse à la composition des salles de nouvelles au Québec. Les journalistes sont bons pour parler des problèmes de discrimination et des manquements des autres ordres professionnels, mais il n'y a personne qui parle des journalistes parce que ça nous obligerait à parler des concurrents et ça se retournerait rapidement contre nous. Le rapport de classe et les « Nepo Babies » dans les salles de nouvelles, il faut en parler aussi. Il n'y a pas grand monde pour porter ce ballon-là et j'ai décidé de le faire parce que je n'ai absolument rien à perdre et que je n'ai pas d'attachement particulier pour ce milieu. Si ma carrière s'arrête demain, je serai correct. Je ferai autre chose. » Vous écoutez « Le privilège d'entendre Vanessa », un texte de Chantal Guy, paru le 29 janvier 2023 dans la presse. Élevé par son père. Mais c'est tout le contraire qui se produit. On s'arrache Vanessa Destinée, qui est loin d'être une « nepo baby ». Ce terme américain, dérivé du mot « népotisme », désigne les enfants de vedettes qui montent vite dans le star system, entre autres parce qu'ils ont des parents célèbres. Elle est née en 1990 à Montréal, de parents haïtiens qui se sont rencontrés au Québec. Elle a très peu connu sa mère, qui a souffert de graves problèmes de santé mentale et a été élevée par son père, un homme sans instruction qui a vécu le chemin de croix de bien des immigrants. Dans mon parcours, j'entends parfois le mot « féminazie » et que les hommes souffrent aussi. Je le sais, je suis la première témoin de la souffrance des hommes. J'ai vu mon père pleurer très jeune, parce qu'à un moment donné, la pression d'être un homme immigrant pogné à élever seul un enfant, sans ressources, c'était une anomalie dans ce temps-là d'avoir un père monoparental, pas juste chez les Haïtiens. Son père a mis tout son argent dans l'instruction de sa fille, qui est allée à l'école privée, pour qu'elle devienne quelqu'un. Un classique des parents immigrants, souvent lourd à porter pour leurs enfants. Sa trajectoire de vie a fait que ça n'a pas été possible pour lui, souligne-t-elle. Tu penses que tu viens vivre le rêve américain et tu te ramasses dans une manufacture où tu te fais traiter de N-word à longueur de journée et le moindrement que tu montes dans la hiérarchie, tu es tout le temps renvoyé à ton statut de noir. C'est ce qui est arrivé à mon père. Non seulement ce sont des emplois mal payés, qui sont brutaux pour le corps, avec des horaires de merde dans des endroits difficiles d'accès, mais ce sont tout le temps des atteintes à la dignité. Tu es déjà brisé physiquement et le racisme systémique, c'est que ça détruit aussi l'esprit. Qui est émotif? Alors, la menace woke, vous le devinez, elle n'y croit pas. Vous pouvez bien la traiter de « woke », elle s'en balance, mais ne lui dites jamais qu'elle est une militante, car c'est selon elle une insulte pour les vrais militants qui travaillent sur le terrain. Ce qui me dérange, c'est que les « woke » sont présentés comme des gens irrationnels, guidés par les émotions, incapables de recul et de regard critique, alors que les gens en face, souvent des personnes blanches et des hommes, vont être des gardiens de la pensée rationnelle. Dit Vanessa Destinée. C'est émotif de part et d'autre, mais il y a une émotivité qu'on ne pardonne pas aux minorités, alors que la majorité nage dedans au quotidien. Si on prend l'exemple du mot qui commence par « N », on accuse la communauté noire d'être super émotive, mais c'est tout le temps des Blancs qui en parlent et qui capotent à l'idée de mettre un avertissement au début de la « petite vie ». Parce que son père travaillait beaucoup. Vanessa Destinée a été élevée par la télévision québécoise. Elle admirait des journalistes comme Jean-François Lépine, Raymond Saint-Pierre ou Joyce Napier. Son plus grand modèle était Sonia Benezra, et elle a longtemps cru que Francine Grimaldi était noire. L'un des grands moments de sa vie a été de se photographier avec Michel Richard, qu'elle adore, et elle est la première à hurler parce que Céline Dion n'est pas dans le palmarès des meilleurs chanteurs du Rolling Stone. Car Vanessa Destinée revendique aussi son droit à la légèreté et au fun. Alors ne l'appelez pas en panique seulement quand il y a une crise autour d'un enjeu de racisme. Ça se pourrait qu'elle vous dise non. Parce qu'elle a tellement d'autres cordes à son arc et elle le sait. Il faudrait s'arranger pour ne pas la perdre. Je trouve que ça serait dommage pour la profession qui a le privilège de l'avoir dans ses rangs, plus que de son bord. Questionnaire sans filtre. Le café et moi. J'ai toujours aimé beaucoup le café, mais je dois faire attention depuis que j'ai pris des médicaments contre l'anxiété en 2018. Depuis ce temps-là, je ne suis plus capable d'en boire. Ça me rend très agité et ça me donne des maux de tête. J'achète du décaféiné parce que j'aime beaucoup le goût, mais c'est comme un deuil à faire. Les gens morts que j'aimerais réunir à table. Joséphine Baker, une de mes grandes icônes noires à cause de son parcours de vie fascinant. Mata Hari, pourquoi pas, tant qu'à être dans les espionnes. Whitney Houston, pour qu'elle me fasse une sérénade juste à moi. Enfin, Martin Luther King et Malcolm X, ensemble, pour qu'on parle du chemin parcouru. J'aimerais qu'ils voient ce qu'il y a eu après eux. Mon modèle. La personne que j'admire le plus en vieillissant est la politicienne française Christiane Taubira. Elle n'est pas sans faille. Il y a eu quelques controverses associées à sa famille, mais c'est un exemple de détermination, de fougue et d'autorité que j'aime beaucoup. Elle a été victime de racisme tout au long de sa carrière, mais elle ne se laisse pas marcher dessus. Elle répond aux critiques et ne se défile jamais. Je trouve ça extraordinaire. Vanessa est née le 4 mars 1990 à Montréal et est titulaire d'un baccalauréat en communication et coopération internationale de l'Université de Montréal. Elle collabore notamment aux émissions « Décoloniser l'histoire » et dans les médias à Télé-Québec et « Les clés du logis » au Canal Savoir. C'était « Le privilège d'entendre Vanessa », un texte de Chantal Guy, paru le 29 janvier 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.